Général Jean Varret, bonjour.
Bonjour.
Le président Emmanuel Macron estime que la France aurait pu arrêter les massacres lors du génocide des Tutsis, mais n'en a pas eu la volonté. Vous n'étiez plus sur place quand le génocide a démarré, mais diriez-vous que dans la période de 90 à 93, où vous étiez chef de la mission militaire de coopération au Rwanda, si les autorités avaient donné les bonnes instructions, on aurait pu endiguer la mécanique génocidaire ?
C'est certain, absolument. Parce que la France était très proche du Rwanda et les deux présidents s'appréciaient, se téléphonaient. Mais attention, il aurait fallu commencer tôt, c'est-à-dire dès 89-90, date à laquelle le processus du génocide s'est mis en place progressivement. Ça aurait été trop tard en 93, la machine était lancée. Mais je pense que dès le départ, vers 89-90, la France, si elle était convaincue des risques d'un génocide, aurait pu persuader Habyarimana de faire marche arrière.
Est-ce que les signes étaient clairs à cette époque-là du risque de génocide ?
Ces signes étaient clairs pour peu de monde. Un chef de coopération militaire a 26 pays, et dans chaque pays, il y a un colonel. Dans le cas du Rwanda, il y avait un colonel, qui s'appelle Galinier, et ce monsieur était en place depuis 2 ans quand j'ai pris mes fonctions en 90. Donc il connaissait très bien le Rwanda et avait très vite vu des signes avant-coureurs d'un risque à soutenir la politique française venant au Rwanda. Et il m'en a fait part dès que j'ai pris mes fonctions, au travers d'écrits, au travers de coups de fil, etc., etc. Et donc je me suis rendu sur place très vite, avant la fin de l'année 90. Et là, il m'a expliqué très clairement les dérives possibles de notre politique française. Donc lui était déjà très sensibilisé et je dois dire que ses arguments m'avaient convaincu. Donc j'ai multiplié les allers-retours. Je crois qu'en l'espace de 6 mois, j'étais 4 fois au Rwanda. Et à chaque fois, j'ai pu constater que Galinier avait raison.
Que vous disait précisément Galinier sur les risques qui existaient ?
Galinier me disait que le pouvoir Hutu devenait un pouvoir dictatorial et considérait que la minorité Tutsi était les ennemis des Hutus. Or, Galinier très tôt m'a dit « Le gouvernement français, enfin l'équipe dirigeante française, considère comme les Hutus que les Tutsis sont des ennemis. » Et Galinier, là-dessus, m'a convaincu très vite que la politique de la France considérant les Tutsis comme ses ennemis était erronée. Et jusqu'au jour, très tôt d'ailleurs, autour, je crois, du deuxième voyage que j'ai fait, le chef d'état-major m'a demandé d'aller à une réunion qu'il avait montée avec les gendarmes. Et là, le chef de la gendarmerie, un certain Raga Filita, me demande des mitrailleuses, des mortiers, d'armes. Alors je dis, mais la coopération militaire française n'est pas là pour équiper la gendarmerie comme une armée. Moi, je veux bien vous donner des gilets pare-balles, des casques, des grenades lacrymogènes et continuer à vous former au maintien de l'ordre, à la lutte peut-être contre les manifestations s'il y en a, en particulier des Tutsis, mais certainement pas des armes de guerre. Et devant la sécheresse de mes réponses, le chef d'état-major dit, mais la réunion est terminée. Et le chef du gendarme demande simplement à me voir en tête à tête si je suis d'accord. Et là, il me dit froidement, écoutez, si je vous ai demandé ces armes létales, ces armes de guerre, c'est parce que nous allons participer, nous gendarmes, avec l'armée rwandaise, l'armée Hutu, à la liquidation de tous les Tutsis. Comment je dis tous les Tutsis ? Oui, les femmes, les enfants, les vieillards, tous ceux qui sont sans place, rassurez-vous, ça ira assez vite, ils ne sont pas très nombreux.
Il emploie ces mots, nous allons participer à la liquidation de tous les Tutsis.
Oui, c'est la phrase exacte, je l'ai toujours en mémoire. Et la phrase complémentaire, rassurez-vous, ce sera vite fait, ils ne sont pas très nombreux.
Vous prévenez Paris de cet entretien ?
Alors, évidemment, je prenais l'avion quelques heures après pour retourner en France. Et je demande immédiatement à voir Habyarimana lui-même, le président, qui m'avait déjà reçu pour me demander différents apports d'armement et autres, en fait, bon, et demandait une augmentation de la coopération militaire. Bon. Et je demande à le voir et je passe voir l'ambassadeur, qui s'appelle M. Martre à l'époque. Je lui dis ce que je viens d'entendre et je demande à aller voir Abiy Mana. Alors l'ambassadeur me dit, bon ben allez-y, je n'ai pas le temps d'y aller, je ne peux pas. Je vois Abiy Mana, pas au palais mais chez lui, il était tard, et je dis que vient de me dire Raga Filita. Et là, il se lève, furieux, et il me dit, vous a dit ça, ce con-là, toujours la phrase exacte. Je dis oui, eh bien je le vide. D'abord, il n'a pas été vidé. Je ne sais pas s'il était furieux parce que Raga Filita avait vendu un projet secret, ou simplement parce qu'il trouvait que ce n'était pas à lui de dire ça, je ne sais pas. Mais enfin, il était furieux. Dans l'avion, je rédige un télégramme, un TD secret défense, que j'adresse à mon ministre, au ministre des Armées et à l'état-major particulier du président.
Quel est le retour qui vous est fait des autorités françaises sur ce télégramme diplomatique ?
Aucune. Aucune réponse. On ne me dit pas que j'ai tort, on ne me dit pas que c'est faux. Apparemment, on n'en tient pas compte. Je dis bien apparemment. Mais ce télégramme a été lu, parce que très longtemps après, un des lecteurs m'en a fait allusion.
Est-ce qu'il y a d'autres situations qui vous ont alarmé ?
Oui, parce qu'après, quand je retournais au Rwanda ou quand je communiquais avec Galinier, les massacres des Tutsis commençaient en particulier au nord-est du pays, c'est-à-dire dans le fief des Hutus extrémistes, et puis dans le sud, et ça touchait aussi les Hutus modérés. Donc les massacres se multipliaient. Parallèlement, la pression de l'état-major particulier du président français s'accentuait sur moi pour que je réponde positivement aux demandes de renforcement militaire de la coopération. Ces deux contradictions me montraient que la situation devenait très grave.
Tous les éléments dont vous disposez, général Varret, veulent dire que les autorités à Paris savent donc ce qui se trame.
Je ne sais pas s'ils savent ce qui se trame. Enfin, Galinier et moi, on l'a dit. On l'a dit oralement dans les cellules de crise et on l'a dit par écrit. Bon. Mais on n'est pas cru. Je pense que ni Galinier, ni moi, ni même un rédacteur du Quai d'Orsay qui s'appelait André Enfraise. Ce rédacteur avait senti la chose, mais il n'a pas été écouté. Galinier et moi, nous n'avons pas été écoutés. Je pense qu'on était minoritaires, tellement minoritaires que nos voix n'étaient pas audibles.
Alors justement, lors des réunions de la cellule de crise auxquelles vous participez par la suite, quelle est l'attitude que vous tenez? Quel est l'accueil que vous recevez?
Alors dans les cellules de crise, il y avait le représentant du Quai d'Orsay, le représentant de la Défense, le représentant de la coopération, et en général c'était moi. Et puis le représentant de l'Élysée, le chef d'état-major ou son adjoint de l'état-major particulier du président. Donc dans ces réunions, on discutait de l'apport, du renfort, de l'aide qu'on devait apporter au gouvernement rwandais dans ses combats contre les Tutsis. Et moi, à chaque fois, je disais non, ce n'est pas la peine de leur envoyer des canons de plus, non, il ne faut pas leur envoyer de mitrailleuses de plus, etc. Et au bout d'un moment, on ne tenait plus compte de mes restrictions, et au contraire, on m'enlevait des prérogatives que le chef de coopération militaire a, c'est-à-dire dans les pays du champ, tous les militaires qui sont sur place dépendent de lui. Et c'est comme ça que des unités spéciales qui étaient dans un camp au Rwanda chargé de former les cadres Hutus, j'apprends que ces unités spéciales qui étaient sous mes ordres avaient été faire une reconnaissance en Ouganda en franchissant la frontière sans mon autorisation. Donc, non seulement je les engueule, mais je fais également une information en disant que c'est inadmissible que cette unité ait transgressé mes ordres. Et quand je rentre à Paris, j'ai un télégramme sur mon bureau en disant les unités spéciales mises dans le camp de Gabiro ne sont plus sous vos ordres. Donc, petit à petit, je comprends que non seulement je ne suis pas écouté, mais que je gêne. Je ne suis plus convoqué aux cellules de crise. En mon absence, certains ont dit « méfiez-vous de Varet », autrement dit « ne l'écoutez pas ». Avant la fin de ma troisième année, eh bien, le ministre, très gêné, me dit « je viens d'apprendre que vous êtes remis à la disposition du ministre de la Défense et que vous quittez vos fonctions et que vous êtes remplacé par ce jeune général ». J'appelle la Défense qui me dit « effectivement, vous allez être nommé gouverneur militaire du nord de la France ». Et moi, je dis non, je veux pas, je n'ai pas été écouté, je demande ma démission. Ma démission, il fallait que ce soit le président qui la signe. Et le président refuse de la signer et me convoque à l'Élysée à deux reprises pour me dire je ne veux pas que vous démissionniez. Lassé de prêcher dans le désert, lassé de ne pas être écouté et de ne pas être cru, lassé d'être mis de côté, je suis parti un an avant le génocide et j'ai volontairement fermé toutes les informations que j'avais, fermé de m'intéresser au Rwanda, si ce n'est que quand le génocide s'est déclenché, j'ai essayé de contacter le président Mitterrand, ce que j'ai fait par une personne interposée, et je lui ai fait dire « Pourquoi vous n'avez pas tenu compte de mes télégrammes ?» Et la réponse de Mitterrand, qui était immédiate, « Je n'ai pas vu vos télégrammes. » Vrai ou faux, j'en sais rien, mais pour moi, l'affaire se conclut comme ça.
Qui balayait le plus souvent vos réserves lors de ces discussions de la cellule de crise ?
Bon, je dois dire un peu tout le monde, mais certainement en priorité l'état-major particulier du président.
Pourquoi, selon vous, général Jean Varet, les alertes que vous avez lancées n'ont-elles pas été entendues ?
Je pense simplement que je n'étais pas audible. Parce que je m'apercevais que dans les réunions de crise, tout le monde était sur une même ligne, c'est-à-dire le Quai d'Orsay, la Défense, l'état-major particulier. C'est au travers de ces trois entités que se réglaient les problèmes du chef. Je n'étais pas audible parce que les trois entités que je cite étaient toutes sur la même ligne que le président Mitterrand. Et le président Mitterrand m'avait expliqué quelques années avant, en Afrique, quelle était sa politique africaine. Et sa politique africaine, c'était permettre à la France d'avoir à l'ONU des pays qui votaient comme elle, ce qu'on appelait les pays du champ, et d'avoir donc du poids face aux États-Unis. Et dans le cas du Rwanda, le président Mitterrand voulait absolument que le Rwanda reste francophone au travers des Hutus, car ils étaient menacés par les anglophones qui étaient les Tutsis, équipés, armés et formés par les anglo-saxons, car je rappelle que Kagame, le président actuel, avait été à l'école de guerre américaine et avait été dans les écoles anglaises de l'Ouganda.
C'était le regard que le président français, François Mitterrand, portait sur la situation au Rwanda.
Oui, et personne autre que moi à l'époque, à mon niveau, personne ne disait au président que dans le cas du Rwanda, cette politique pouvait amener des catastrophes. Tout le monde disait ce que Mitterrand voulait entendre.
Il y avait une volonté de plaire au prince, vous pensez ? Ou alors c'est parce qu'il y avait une conviction qui allait dans le même sens que celle du président Mitterrand ?
Certainement les deux. Il y avait quand même une conviction que Mitterrand avait raison. Et puis une part que je ne peux pas évaluer, une part de flagornerie. Bon, il était difficile de dire au président qu'on n'était pas d'accord. Je pense que le président avait une autorité indiscutable et un certain charisme qui fait que son entourage n'osait pas lui dire qu'il partait sur une fausse route.
Général Jean Varet, merci.
Je vous en prie.